entendu dire.
Oui, oui, oui. Oh, je suis.
Bonjour, je vais vous mettre des mains.
envie de faire votre connaissance.
Très heureux.
Excusez-moi, je reviens de Cuba, j'ai pas envie.
Je t'ai suivi dans ton voyage de Cuba.
C'était bien.
Oui.
C'est... Vraiment, c'est à découvrir. Oui, parce que j'étais... Non. Rassurez-vous, j'ai pas fait l'aller-retour dans l'après-midi quand même.
Aujourd'hui, je croyais
non,
ça.
Non. Bah écoutez, non, parce que je faisais l'entretien avec Yos, donc qui est un auteur cubain.
Ah bon ?
Oui, qui est là, ouais.
Voilà.
Installez-vous.
C'est monsieur qui animera le débat. Voilà. Oui.
Alors merci à vous qui êtes bien courageux parce que voilà, il est tard déjà aujourd'hui. Mais c'est pas ça, c'est qu'il est tard. Mais commencez pas à être désagréable par là-bas. Non, mais c'est vrai qu'on fait nocturne en plus ce soir, donc c'est vrai que même si on veut, on peut prolonger, hein, si le débat fonctionne bien. On va parler roman historique et on va parler, on va poser cette question et je pense qu'on va démarrer comme ça, tout simplement. Parce qu'on nous demande de parler du roman historique en se demandant si c'est une imposture. Alors je vais vous demander, est-ce que je suis entouré de quatre imposteurs ?
C'est sûr que ça commencerait fort.
C'est nous qui devons répondre ?
Eh oui !
Mais écoutez-moi, le mot imposture me gêne, je porte beaucoup, parce que je ne vois pas pourquoi on prononce à ce propos. Pourquoi une imposture ? À quel moment est-ce que c'est devenu une imposture ? Parce que moi je pense que le roman historique... c'est d'abord le roman, c'est assez vague. Je me souviens que dans mon enfance, on avait de très longs livres pour le prix, et ces livres avaient toujours un sujet historique, la guerre de Vendée, Napoléon, et puis en même temps, il y avait toute une histoire très très sympathique. C'était donc un roman. Donc peut-être que c'est ça, ce sont là les premiers romans historiques, et ils n'ont rien d'une imposture, je ne pense pas.
Alors on reviendra sur Angélique évidemment au cours de cette discussion. Je suis pas sûr que Gilles ait tout à fait la même impression sur l'imposture. Est-ce que tu es un imposteur, Gilles ? C'est le moment de... Vas-y, raconte-nous.
Ah, ça va ? Bon, ça... si, oui, ça fonctionne ? Non ? Bon là, c'est compliqué ce truc. Hein.
Faut appuyer sur le bouton.
Ah, alors si je peux pas bouger, faut que je reste. C'est déjà une contrainte. Bien, donc, oui, ça marche pas, tu peux passer un bouton. Ouais,
tiens.
Oui, merci. Ah oui, je préfère. Oui, alors, est-ce que je suis un imposteur ? J'en sais rien, je crois pas, enfin, j'ai pas l'impression d'être. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une imposture ?
Ben,
c'est définition du Becherel, 1864, on est dans l'histoire, on n'y est pas. C'est une tromperie faite aux imbéciles.
J'ai des auteurs qui travaillent plus que moi.
C'est la définition d'imposture. On la retrouve dans le littré en 1925-30. Donc, est-ce que je trompe des imbéciles ? Non. Non pas que j'ai pas envie de tromper, mais j'ai jamais eu tendance à considérer mes contemporains comme des imbéciles. Aucun. Donc, s'il n'y a pas d'imbéciles, il n'y a pas d'imposture, puisqu'il n'y a pas de trompeur d'imbéciles. Et puis, à une réserve près quand même, qui est que je vais être un imposteur vis-à-vis de la classe politique, par exemple, toutes tendances confondues. Et là, je ferai appel à un souvenir d'histoire qui est celui de la fin du règne d'Alphonse XIII en Espagne, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était incapable de gérer son pays, qu'il était incompétent. Il a fait appel à un général pour lui confier les rênes du pouvoir. Ce général, c'était Primo de Rivera. Et Primo de Rivera a pris comme première décision deux décisions très importantes, politiques très importantes. La première, ça a été d'abolir la Constitution de 1876, qui faisait de l'Espagne une sorte de pseudo-monarchie constitutionnelle. Et puis la deuxième, qui est peut-être la première et la plus grave, c'est qu'il a immédiatement condamné à l'exil le poète Miguel de Unamuno. Il l'a condamné au prétexte que, et il l'a proclamé haut et fort, que les intellectuels n'ont pas à faire de politique, n'ont pas à se mêler de politique. Ce qui veut dire que seuls les imbéciles peuvent en faire. Ce qu'on constate aujourd'hui, bien sûr. Donc, il n'y a qu'un vis-à-vis d'eux.
C'est la politique, l'imposture, là.
Non, mais c'est, dans ce cas, je veux bien être un imposteur, mais vis-à-vis de ces gens-là. Puisque ce sont les seuls imbéciles que je reconnaisse. Que reconnaissent aussi Primo de Rivera, c'est un fait historique.
Roger Faligo, est-ce que vous avez l'impression d'être un imposteur avec les sept portes du monde ?
Moi, j'avais un problème, c'est que je croyais que mon héros était un imposteur. Puisque c'est le premier homme qui a fait le tour du monde par les continents et que j'ai essayé de leur reconstituer sa vie. Mais j'étais pas sûr du tout que ce qu'il racontait était vrai. Et quand j'ai commencé à travailler sur des archives du début du XVIIe siècle, bah, le premier problème que j'ai eu, c'est de faire toute l'enquête, reprendre tout sous son péril pour voir s'il avait pu raconter des histoires à ses contemporains et à ce moment-là rentrer dans la définition de mon voisin, ou bien au contraire, s'il disait la vérité. Mais comme en plus, j'ai pris le parti de faire des mémoires, c'est-à-dire de raconter à sa place ce qui est arrivé, évidemment, je ne sais plus très bien si c'est lui ou si c'est moi qui suis le pire imposteur à l'affaire. Mais peut-être on y reviendra tout à l'heure.
Mathieu.
En fait, moi j'ai l'impression de parfois de passer pour un imposteur vis-à-vis des historiens, de métier, dont je dirais l'intransigeance vis-à-vis du roman historique est telle qu'ils nous reprochent, à nous les auteurs, de sortir, d'aller plus loin que ce que la science historique sait de vrai, d'exact sur les événements du passé. Et c'est à partir du moment où on va au-delà de cette frontière entre le connu, l'avéré, l'authentifié, qu'on a l'impression de sortir du petit précaré que les historiens s'autorisent à gérer et qu'on devient des imposteurs. Or, moi, j'estime que l'auteur, lui, il peut transgresser cette frontière-là et aller au-delà.
En fait, votre problème à tous, c'est que vous mêlez à l'histoire qui est intangible, finalement, l'imaginaire.
Oui, mais au fond, l'histoire intangible, ça n'est que momentanément. Parce que moi, j'ai déjà remarqué, puisque ma vie est longue, que j'ai lu, et tout à coup, quelque chose que je n'avais pas imaginé, je l'ai découvert dans un livre historique. C'est une nouvelle découverte dont on pouvait parler, maintenant. Il y a eu des documents qui avaient été trouvés. Donc tout ça, c'est très subtil. Il n'y a pas en réalité de choses historiques enregistrées comme infranchissables. Donc le roman trouve sa place.
Est-ce que c'est pas ça votre problème ? C'est finalement de mêler le vrai semblable, l'inventé ?
D'abord, posons la question, est-ce que l'histoire existe ? Dans sa réalité, dans sa vérité absolue, est-ce qu'elle est incontestable ? Moi, je constate à chaque fois que je m'approche de l'histoire, c'est l'une de mes passions, qu'il y a autant d'histoires que d'historiens, autant de lectures de l'histoire que d'historiens. Je ne connais pas deux historiens qui aient la même vision de l'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, encore moins de la libération, encore moins de l'épuration. Je ne connais pas deux historiens qui aient la même vision de la guerre d'Algérie, pour ne parler que d'événements contemporain. Donc il y a autant d'histoires que d'historiens, ce qui pour moi décrédibilise les historiens qui se prétendent comme étant les seuls détenteurs du droit de parler histoire. Ça c'est le premier point. Le deuxième, l'histoire dans un roman historique, enfin pour ce qui me concerne, c'est un troisième ou quatrième ou deuxième personnage. Elle est un personnage. Et elle l'est parce que je ne peux pas raconter la vie d'homme ou de femme sans tenir compte de ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce qui les pénètre, ce qui les traverse, tout ce qui s'écrit autour d'eux au moment où ils vivent. Que je le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, que nous nous intéressions ou pas à l'actualité, nous sommes traversés par ce qui se passe à l'hôtel Sofitel de New York, par ce qui se passe autour de la centrale Fukushima au Japon, par ce qui se passe en Libye, nous sommes des enfants de cette histoire qui s'écrit autour de nous. On ne peut pas y échapper. Donc, mes personnages sont plongés dans le bain de l'histoire parce qu'ils sont le produit de ce bain-là. Ce n'est pas possible autrement. On n'a pas, je crois, auteur de roman historique, on n'a pas à se chercher de légitimité. Elle est là, tout à fait naturelle. Tout à fait naturel, me semble-t-il.
Roger, quand justement on raconte une histoire dont après enquête, on se dit qu'elle, qu'elle est vraisemblable, en tout cas qu'elle a existé concrètement. La difficulté, elle vient où? Elle vient finalement là aussi de cette fois-ci, justement, ne pas devenir un imposteur en se trompant, en racontant l'histoire.
Si vous voulez, moi, le roman historique, je pense qu'il y a, on voit tous chacun avoir sa définition. Et moi, personnellement, peut-être parce que j'ai une formation un peu anglo-irlandaise, je préfère l'expression anglaise pour mon bouquin, je ne dis pas pour les ceux de mes collègues ici, non-fiction novel. C'est un roman, mais elle est plus proche possible de la façon de la vérité, sur la façon dont vivait à l'époque, le type de musique qu'a rencontré mon personnage quand il est en Inde ou quand il est chez le Shah Abbas, le Perse, etc. etc. Alors, c'est un roman, complètement un roman, et pourtant, c'est un personnage, et je suis très content parce que je le fais revivre. Il avait complètement disparu de l'histoire pendant 4-5 siècles, et maintenant à Vitré, puisqu'il est originaire de Vitré, cette petite ville à la frontière de la Bretagne et de la France à l'époque, et ben on commence, y compris les Vitréens, se réapproprient ce personnage en disant « Incroyable, c'était un Breton, quel premier homme à avoir fait le tour du monde par les continents ?»
Et on peut prendre votre couverture comme exemple de notre sujet, parce que... Est-ce que c'est lui qu'on voit sur la couverture ?
Alors tout à fait, c'est une miniature qui se trouve au Victoria and Albert Museum à Londres. On le voit, vous ne le voyez pas là, mais il y a une rapière derrière. Comme je suis escrimeur, je me suis beaucoup intéressé à la raison pour laquelle il avait été un grand pourfendeur, enfin un bretteur, comme on dit. Bon. Et j'ai pu identifier cette miniature en allant en Inde, et maintenant ce musée a décidé de sortir des archives cette miniature et de mettre le nom Pierre Malherbe, ce Breton, etc. Donc vous voyez, je suis toujours très très proche d'une réalité, mais en même temps, bien sûr, que je l'ai fait en plus en étant ses mémoires. Je suis Pierre Malherbe, je parle à la première personne. C'est encore plus audacieux, si je puis dire.
Mathieu, dans Saltarello, là aussi on mêle des faits historiques. On est au XIVe siècle, on est à Paris, c'est un siècle où il va se passer énormément de choses. Il se trouve que justement, l'intrigue se passe au moment clé, finalement, hein, de cette deuxième moitié du XIVe siècle, avec des personnages réels, et puis d'autres que vous inventez, qui se côtoient. Est-ce que là aussi, c'est pas la difficulté, finalement, du roman historique, de mêler, encore une fois, le vrai, les vrais personnages, et puis ceux qui sortent de votre imaginaire ?
À la base, l'histoire que je veux raconter, elle se base sur des personnages réels qui ont produit des choses, qui ont écrit des livres qui restent encore aujourd'hui. Donc on a leurs traces. Mais pour tisser ma trame narrative, j'ai besoin de personnages secondaires que je vais forcément inventer. Parce que l'histoire ne garde pas la trace de tout le monde, de tous les quidam qu'on rencontre dans la rue, évidemment. Maintenant, pour donner une crédibilité à ces personnages, il faut s'appuyer sur des documents, sur des descriptions de l'époque. Par exemple, une fois, on m'a demandé, mais vous faites parler vos personnes, vous leur faites dire des jurons, des choses. Comment vous pouvez savoir que les gens de l'époque parlaient comme ça? Alors, pas forcément avec ces mots-là, mais avec ce ton, ou en tout cas ce type de vocabulaire. C'est très simple. En fait, moi, je me suis basé sur les interdits. Donc, sachant que au XIVe siècle, en 1360, il y a eu un interdit de Charles V de proférer telle liste de jurons sous peine de telle et telle et telle amende, je me suis dit que si on avait interdit ces mots-là, c'est qu'ils étaient prononcés.
Parce que ça blasphème joyeusement quand même. Hein.
Ça blasphème allègrement. Mais les mots que j'ai utilisés, ils proviennent de ces listes de mots interdits. Donc, quelque part, j'invente, mais j'invente en me basant sur des documents.
Anne Gollon, votre Angélique, parce qu'on va revenir quand même, vous avez beau nous dire que vous n'êtes pas un imposteur, votre Angélique a 15 ans, ou à 14 ans, elle empêche un complot du prince Condé qui visait à assassiner Louis XIV. Votre personnage de fiction, vous lui faites intervenir dans la grande histoire et vous lui faites changer le cours de l'histoire, finalement.
Peut-être, oui, dans un certain sens. Mais ça fait partie, enfin, du récit autour de l'héroïne. Là, c'est justement... Les personnages comme Condé sont des gens qui ont beaucoup d'influence, qui peuvent décider d'énormément de choses. Donc c'est un personnage qui ressemble à celui qui s'est présenté à l'époque. Bon, c'est-à-dire les mêler avec les apparences de comprendre ce qui se passe, les mêler l'histoire. D'ailleurs, rien n'est définitif, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on verra que le rôle de Condé n'était pas tout à fait celui qu'on a cru, et celui d'Angélique n'était pas tout à fait celui qu'on a cru aussi. Ça, c'est l'histoire du roman, précisément. Et là, c'est une certaine liberté que l'on peut prendre vis-à-vis et de l'histoire et des personnages historiques qu'on emploie.
Au-delà de ça, c'est une description de la période, oui. Très importante. Je pense, moi, ce qui m'a frappé en particulier, c'est au moment de cette fronde, c'est en particulier le travail que vous avez mené sur les costumes.
Ah oui, ben c'est tout à fait normal, étant donné que je parlais d'une femme, et puis de l'importance qu'avait l'habillement, et puis c'est quand même ça qui... on a une vision de cinéma, malgré tout, lorsqu'on écrit des romans historiques. Alors, c'était très intéressant de voir comment ça a évolué, comment précisément, je me souviens que c'était l'histoire à l'époque des fameuses petites jupettes, comme elle disait.
C'est ce que j'allais dire, c'est que la manière dont sont habillés les personnages indique à quel camp ils appartiennent aussi.
Oui, oui, parce que c'était ça, c'était parmi les seigneurs. Il y avait une évolution qui a été longue entre le Moyen-Âge, que vous connaissez mieux, et puis cette période du XVIIe siècle où on est passé du juste au corps, qui était donc des choses très étroites, autre chose. C'était vraiment une sorte de culotte pour aller à cheval. Et puis peu à peu, comme on a trouvé que c'était pas beau, ils ont fait cette ringrave, c'était une jupe. Enfin, les gens avaient l'air Monsieur Jourdain.
Qui est beaucoup plus saillant finalement.
Eux, ils trouvaient ça plus saillant. Ils trouvaient ça plus saillant, et donc c'est pour ça qu'en somme, un petit peu en petite taquine qui veut, elle lui dit, mais monsieur, comment appelez-vous cette petite jupe? Mais ma chère enfant, c'est une reine grave, etc. Bon, alors du coup, il était désarmé. Oui, en effet, c'est pour ça que je me suis intéressée au costume. J'étais assez étonnée d'ailleurs de voir comment les gens portaient ces choses en toute simplicité. Donc c'est la mode, on s'aperçoit qu'on porte des choses extrêmement abracadabrantes. On est en persuadé que c'est ça qu'il faut porter. Et d'ailleurs, il y a un tableau qui est assez frappant, c'est au moment du mariage du roi, et quand il y a la cour espagnole qui est en face des Français, on voit tous ces grands nœuds de dentelle aux souliers des Français, le nœud papillon, et puis en face... les chaussures espagnoles beaucoup plus sévères. On se rend compte que l'habillement, c'était toute une présentation.
Il y a une anecdote aussi sur les chaussures à bout carré, certains clouaient.
Oui, mais ça, c'est des choses qu'on lit quand on lit des livres sur l'histoire. Ça tombe toujours sur quelques petites anecdotes de ce genre.
Donc on clouait leur bout, c'est ça, pour faire piéger
quelqu'un. N'est-ce pas, dans un moment où tout le monde va démarrer, cette foule qui représente la cour, et puis tout à coup il y a un qui tout à coup se part en avant parce qu'on lui a cloué son bout de chaussure. Là, ça, et d'abord à un moment ça a été presque, mais comme disait le grand-père, enfin tout de même les chaussures sont pas là pour que leur coup le bout, c'est ridicule. Bon, ça c'était l'enfance d'Angélique qui a été élevée dans cette ambiance, parce que c'est les mêmes enfants, c'est toujours la même chose.
C'est aussi quelque chose sur lequel on va revenir, évidemment, c'est les liens entre ce que vous racontez dans les temps anciens et puis finalement les liens qu'on peut faire avec notre vie d'aujourd'hui. Mais moi, j'aurais voulu d'abord qu'on parle avec Gilles aussi des liens entre les événements qu'on croise, particulièrement dans La Fontaine de Gérard et moi. On se pose toujours une question, quand on lit un roman historique, c'est qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Qu'est-ce qui est né de l'invention de l'auteur? Quels sont les événements? Alors, il y en a certains, on les reconnaît. Il y en a d'autres, on se pose des questions. Et bon, on en a parlé un petit peu hier entre nous. Il y a un événement dans le livre qui, moi, m'a vraiment marqué. Et j'ai pas pu m'empêcher. Je t'ai demandé si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est quand même assez peu connue, finalement?
Oui, je considère que c'est une sorte de mission que nous avons, nous, auteurs de romans historiques, en tout cas pour ce qui me concerne, d'aller fouiller les archives et de révéler parfois des moments de l'histoire qui sont, qui ont été passés sous silence. Pour quelles raisons, on n'en sait rien, mais ils ont été oubliés. C'est le cas, par exemple, c'est dans les toutes dernières pages de ce roman, La Fontaine de Jérémois, ça se passe à Vittel, et j'ai recueilli un témoignage. Après j'ai enquêté et je me suis rendu compte que c'était évidemment un fait historique. C'est le passage à Vittel du dernier convoi expédié du Fort Montluc à Lyon par Klaus Barbie direction Auschwitz. Un train qui transportait plusieurs centaines de juifs, hommes, femmes et enfants, et qui avait circulé pendant 3 jours entre Lyon et Vittel. C'était au mois d'août, sous un soleil de plomb, dans des wagons à bestiaux. Inutile de vous décrire l'état des passagers de ce train. Il est arrivé en gare de Vittel, et là, des voisins de la gare ont repéré quelque chose d'anormal à l'odeur. C'était une odeur pestilentielle qui se répandait dans tout le quartier de la gare. Ils sont allés immédiatement prévenir la présidente de la Croix-Rouge, qui s'appelait Germaine Bouloumier, qui était de la famille des Bouloumier, les fondateurs de la station thermale, qui est venue, qui est arrivée sur le quai, qui est tombée nez à nez avec l'officier SS responsable du convoi, qui lui a dit ouvrez les portes de ces wagons, qu'on puisse intervenir. Elle voyait des mains qui passaient à travers les lucarnes, elle entendait des plaintes, des cris, des appels. Évidemment, l'officier SS a refusé d'ouvrir les portes des wagons. Le train ne devait rester là que quelques heures, le temps de refaire du charbon et de l'eau pour la machine. Elle a insisté, lui a donné l'ordre de circuler, elle a insisté encore, il l'a menacé. Elle a dit, bon, alors, si ce train repart, il repartira en me passant sur le camp parce que je vais me coucher devant la locomotive. Avant de le faire, elle est allée immédiatement à la mairie prévenir son frère, qui était le maire de la ville de Vittel, de Jean Bouloumier, et qui était en même temps le patron de la station thermale. Elle lui a dit, Jean, il faut absolument que tu viennes, parce qu'il se passe quelque chose de très très grave, là. Elle lui a dit en deux mots, et j'ai menacé de me coucher devant la locomotive si l'ISS faisait partir ce train tel qu'il était. Il a pris son chapeau, il dit, viens, nous serons deux. Ils y sont allés, ils ont réussi à obtenir l'ouverture des portes, le spectacle quand... les portes des wagons ont été ouvertes, étaient indescriptibles. J'ai reçu ce témoignage de Guy de Lamotte Bouloumier, qui vit aujourd'hui encore à Vittel et qui a fêté ses 90 ans. C'était un spectacle absolument indescriptible, c'était une horreur intégrale. Elle a réussi à faire nettoyer les voyageurs et les wagons, son frère a fait installer sur le quai de la gare des douches provisoires, des douches de fortune par les pompiers, et elle a fait circuler l'information pour que toute la population de Vittel et des environs, de Contrexéville, de la rivière de Soumont, enfin, toutes les villes environnantes, qu'elle se mobilise pour qu'elle apporte ce qu'elle pouvait apporter comme vivre qui pouvait soulager un peu la faim de ces gens-là. Le train est reparti le soir, les portes ont été refermées, les malades, les mourants, morts et les vivants, survivants sont repartis dans ce train. Et comme il restait encore preuve de la mobilisation de la population et du courage, parce que c'était tout de même au péril de leur vie, c'était en août 44. Août 44, c'était l'époque où les Allemands étaient devenus fous. Le débarquement s'était déjà produit et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Donc ils ont pris tous des risques énormes. Ce train est parti et il restait encore preuve de la mobilisation de cette population, des vivres en quantité, bien que tout le monde crevait de faim à cette époque-là, qui n'avait pas pu être distribué. Elle a organisé une expédition clandestine, évidemment, malgré le couvre-feu, pour que une camionnette rejoigne ce train en gare d'Épinal, où le reste des vivres a pu être distribué. Donc ces gens ont pris des risques énormes, et voilà, ça fait partie, ça, des événements historiques, me semble-t-il, qu'il est important d'exhumer et de réintroduire dans un roman mes personnages, aidant à porter ce regard qui permet de s'approcher, contrairement à l'imposture qu'on essayait d'évoquer tout à l'heure, qui invite à s'approcher encore davantage de ce qu'était la réalité de la vie à ces moments de l'histoire, celui-là en particulier.
Et je précise quelque chose d'incroyable, c'est que il n'y a aucune plaque commémorative qui signale cet événement à Vittel.
C'est
Il est encore et toujours oublié. Beaucoup l'ont découvert en lisant mon livre. C'est pourtant un fait historique. Et bien sûr, personne ne l'honore. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Ça fait partie des grands moments de l'histoire qui sont complètement oubliés.
C'est là que le roman s'introduit dans la vie.
Et bien sûr.
Parce que c'est justement, vous l'avez raconté d'une telle façon qu'il reprend vie l'événement. On se demande, mais qu'est-ce que c'est qui pouvait être exactement cette folie qui commençait. Et là, ça devient un événement historique.
Roger, vous nous emmenez autour du monde. Ça m'a rappelé une émission de télévision assez ancienne, dans les années 80, qui était animée par Didier Régnier, où il y avait des jeunes gens qui voulaient devenir journalistes ou globetrotters, qui partaient à travers le monde et puis qui chaque semaine devaient rendre un reportage. Et puis c'était le public qui choisissait le meilleur reportage, etc. Là, on est vraiment avec quelqu'un qui va partir. Alors vraiment, le mot, c'est à l'aventure, là, pour le coup. Il sait pas du tout où il va, ni combien de temps il va passer, ni vraiment ce qu'il va faire, mais il part en oubliant tout, en étant totalement vierge, en acceptant finalement ce qu'il va rencontrer, avec une curiosité et une tolérance qui sont quand même assez surprenantes, j'allais dire, pour leur époque à eux, mais presque pour la nôtre aussi. Hein.
Oui, alors c'est difficile de parler après de ce qu'on vient d'entendre, mais justement, à cette époque-là aussi, on est en pleine guerre de religion, et il se trouve que la ville de Vitré, dont il était issu, était, on appelait la petite Genève, il y a des protestants et des catholiques, et la ville, les clés de la ville étaient réparties entre quatre, on dirait, conseillers municipaux aujourd'hui, protestants et quatre catholiques. Donc il se trouve que le jeune Pierre Malherbe a été déjà éduqué dans un monde très à part par rapport au reste, alors que, encore une fois, la guerre de religion, mais sous Henri III, faisait rage au même moment. Et ça l'a beaucoup aidé. L'autre chose, c'est que c'était un jeune garçon qui était fabuleusement astucieux pour apprendre des langues très rapidement. Il parlait pas seulement le gallo, qui est une langue bretonne qui avait, mais le français, le latin, le castillan, et ensuite... Il a parlé l'hindoustani, l'urdu hindi, le farsi, etc. etc.
Il a donc commencé aussi à apprendre l'anglais.
Tout à fait, un petit peu, mais pas tant que ça. Alors, ce que je veux dire surtout, c'est que le voyage, il faut arriver à la fin du voyage pour comprendre comment on peut retracer ça et en faire un roman historique. C'est qu'au bout de 5000 jours, de 15 ans de voyage, en étant encore une fois le premier à avoir circulé comme ça par les continents, il y avait Magellan avant qui avait fait par bateau, mais il n'était jamais rentré de son expédition. Il est arrivé à. Il avait visité Lima, il a vu Agra en Inde, il a vu Potosi à 4300 mètres, il n'avait jamais été à Paris. Il est allé à Paris, une ville de 300 000 habitants, et là il est allé au Louvre, que vous connaissez bien, madame, et il a raconté au géographe d'Henri IV ce qui lui était arrivé. Et c'est ce qui est resté, c'est ce qui a pour moi été formidable, c'était 60 feuillets en vieux François qui racontait extrait des voyages de M. Malherbe de Vitré. Et c'est à partir de là que j'ai pu reconstituer et puis repartir, vérifier tout ce qu'il disait. Quand il rencontre, par exemple, le grand Mogol Akbar, type formidable, qui avait pour idée de créer une religion avec tout ce qu'il y a de meilleur dans toutes les autres. Alors il faisait venir des gens de tous des bouddhistes, des zoroastriens, des sunnites, des chiites, des tibétains, puisque les tibétains étaient vassaux de l'Empire Mogol. Et puis ils se réunissaient, il y avait des jésuites aussi, un ou deux jésuites, et ils discutaient pour voir comment on pourrait faire une religion. Bon, voilà. Il y avait, à notre moment, il se trouve chez le Shah Abbas, qui est un chiite, mais un chiite des Lumières. Donc, si vous voulez, ce qui est très, pour moi, qui a été extraordinaire à suivre, c'est un, de aller sur sa trace, repartir là où il a été, alors pas seulement dans les pays où il est resté longtemps, mais pas au Honduras, il est resté 15 jours, mais par exemple au Pérou, en Bolivie, en Inde, au Sri Lanka, etc., etc., et de voir que plus il avançait, plus au fond, il disait, bon, je veux faire comprendre à mes contemporains de quoi le monde est fait.
Il se métissait au fur et à mesure.
Ah ben, il reste quand même breton, c'est ça qui est drôle, il reste breton, mais en même temps, effectivement, il arrive à s'intégrer, et puis il faut dire aussi qu'il y a de très belles histoires d'amour avec un certain nombre de femmes, aussi bien une Inca à un moment qu'une Persienne, une belle Persienne, comme on disait à l'époque, avec qui... Bon, et donc...
C'était pas une histoire de jalousie, donc.
Non, non,
pas histoire de Persienne.
Non, pas du tout.
Bravo.
Il est tard.
Oui, c'est pour ça. C'est une histoire vraie au départ. Après, c'est ce que je rejoins, ce que disait Mathieu Denin, c'est que évidemment, partant de l'histoire, après il manque des personnages. Je prends juste un exemple et après je vous cède la parole. Il y a un moment, il y a un personnage qui est un gars qui s'appelle Congo et qui est un Africain qui l'accompagne pendant toute une partie du Pérou jusqu'au moment où il va aller à Zanzibar, qu'il revient en Afrique. Ben, ce Congo, j'ai trouvé dans les archives à Lima, dans les archives nationales du Pérou, la vente des esclaves qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait un gars qui s'appelait Pedro de Tierra Congo, et c'était un Congolais. Parce qu'on avait tué tellement d'Incas dans les mines d'argent, où on va d'ailleurs travailler à maman Pierre Malherbe, qu'on a commencé à faire venir des Africains du Congo, de ce qui est aujourd'hui le Sénégal, etc. Donc, à la fois, j'ai inventé un peu un personnage, mais en même temps, c'est absolument ce qui se passait.
Alors, vous avez gardé un instant la parole, parce que finalement, ce qu'il a inventé, c'est la mondialisation.
Ben, il est témoin, parce que il est entre deux empires. Il y a l'empire espagnol qui est le plus grand au monde. On est sous Philippe II d'Espagne, n'est-ce pas ? Donc, mais qui est fragmenté. Alors, c'est vrai qu'à un moment, par exemple, il est poursuivi par la Sainte Inquisition, qui ne fait pas seulement dans la lutte contre les hérétiques, mais qui est aussi un formidable service secret, avec des bases régionales à Mexico, à Lima au Pérou, à Goa en Inde, etc. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que là, par les moyens qu'ils avaient, les galions, la flotte de l'or, sur laquelle il a été en 93, la grande expédition de 95, par exemple, c'est dans son expédition qu'on a découvert les Marquises. On a baptisé les Marquises. Ils cherchaient les îles Salomon, ils n'ont pas trouvé parce qu'ils ont été au-dessus d'Australie. Donc là, il y a des choses qui sont absolument... Effectivement, ils allaient vendre des... Lui, à l'origine, il vendait du canevas, du chanvre, hein, pour les toiles de bateaux, les voiles de bateaux, les toiles de moulins et les sacs. Ils ont inondé ses parents et les marchands vitréens, la confrérie des marchands outre-mer, ont inondé l'Europe de chanvre. Ils ont décidé d'aller au-delà et ils ont envoyé ce gars-là pour... contourner l'embargo qu'imposaient les Espagnols au Nouveau Monde pour essayer de faire ça. C'est le début de son voyage.
Mathieu, là aussi, dans Saltarello, il y a ce côté très ambivalent entre l'histoire, celle qui est avérée, et puis ce qui peut créer l'imaginaire. Et pour ça, il y a un personnage, alors, qui est un personnage qu'on retrouve quand même régulièrement dans la littérature historique et fantastique, c'est Nicolas Flamel. Mais la différence peut-être dans Saltarello par rapport à d'autres livres, c'est que ça va un peu plus loin que Nicolas Flamel.
Oui, le personnage de Nicolas Flamel, il est entouré de toute une aura d'alchimie. Et moi, j'ai voulu montrer que c'était en fait tout simplement un libraire assez doué en transactions immobilières et qui, voilà...
Ça démythifie le personnage.
Il a fait fortune grâce à ses achats-reventes de terrain.
Et pas en transformant le plomb en or.
Et pas en transformant le plomb en or, malheureusement. Et par contre, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que le nom Flamel, il n'a quasiment pas laissé de traces à l'époque contemporaine avec le prénom Nicolas. Il a été énormément mystifié au XVIe siècle. On en a créé au XVIe siècle un personnage romanesque, un alchimiste. Et tous les écrits qu'on a aujourd'hui de Nicolas Flamel datent, en fait, sont apocryphes, ils datent du XVIe siècle. Les seules traces qu'on a du nom Flamel sont précédées du prénom Jehan, bizarrement, et qui est, lui, un personnage avéré, qui était le notaire de Jean Berry, le fameux commanditaire des très riches heures du duc de Berry. Donc qui était un mécène, qui était le frère de Charles V. Et donc, il y a de très fortes présomptions que Nicolas Flamel soit quand même un personnage historique et qu'il soit le frère ou le cousin de Jehan Flamel. Moi, j'en fais son frère et j'en fais son associé. Voilà, c'était étant notaire, c'était quelqu'un qui était dans le métier du livre. Donc voilà, je greffe comme ça un personnage secondaire, un personnage de fiction, sur des bases, encore une fois, historiques.
Avec quand même un Nicolas qui est très flamboyant et un Jehan qui est un petit peu plus phallo.
Voilà, qui est très, très effacé, voire un peu manipulateur.
Et là encore, on le redit, mais c'est au moment, c'est vraiment une période clé, hein. Il y a la reconstruction vraiment de Paris à cette époque-là, mais il y a aussi la création du franc.
Oui,
il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. C'est fondamental aussi dans le récit, finalement. C'est le récit qui vient se greffer sur ces événements historiques ou c'est les événements historiques qui ont donné le cadre du récit ?
Non, pour moi, un roman historique, il ne doit pas utiliser le prétexte de l'histoire pour s'ancrer à une période donnée. Sinon, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prise. Si on peut transposer un roman historique à une autre période que celle pour laquelle il a été écrit, pour moi, c'est plus un roman historique. Donc, évidemment, et je rejoins ce que disaient mes collègues, l'atmosphère de l'époque enrichit, nourrit et explique les comportements des personnages. les personnages réagissent de telle façon aux événements de l'époque. Ils réagissent, par exemple, dans Saltarello, en fait, on explique qu'il y avait le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire qu'il y avait un pape à Avignon, un pape à Rome, qui divisait tous les pays d'Europe en deux. Il y avait ceux qui reconnaissaient l'obédience du pape d'Avignon, d'autres qui reconnaissaient l'obédience du pape de Rome, et même à l'intérieur de certains pays, il y avait des mouvements politiques, on va dire, il y avait, pour simplifier, la droite et la gauche, ceux qui voulaient reconnaître plutôt l'un que l'autre, et ça transparaissait nécessairement dans les intrigues secondaires, dans les discussions. Le clergé était très embêté par cette histoire, parce qu'il fallait une autorité et une seule, et donc nécessairement ça avait des conséquences à des tas de niveaux sur, presque la vie de tous les jours.
Et on découvre un siècle de fous furieux. Hein. Il se passe des trucs. On sent mur vivant, on se promène entièrement nu, en psalmodiant. Ouais, enfin,
c'est un peu les anecdotes un peu croustillantes, un peu amusantes du Moyen-Âge. Moi, je voulais montrer que le Moyen-Âge, c'est pas cette période obscure qui est assombri par les guerres et la peste, mais que c'était une période très étonnante, très scientifique aussi. Un des personnages, celui qu'on enterre dans le premier chapitre, malheureusement, c'est Nicole Oresme, qui était le Albert Einstein du 13e siècle, du 14e siècle, pardon, qui était un scientifique gigantesque, qui lui, pour le coup, a laissé vraiment une dizaine à peu près de manuscrits, des traités d'optique, des traités de géométrie, des traités de mathématiques, de physique des solides. Il a écrit des livres sur l'astronomie, sur des théories sur l'économie mondialisée. Il a vraiment... c'était un penseur universel. Et son nom, aujourd'hui, n'est connu de personne. Or, ces théories ont été réutilisées par tous les penseurs successifs des siècles suivants, ont été reprises, et parfois même, mot pour mot, par des gens dont, on se souvient du nom, et qui ont simplement recopié les livres de Nicole Oresme. Voilà, je rejoins aussi en ça le travail de Roger Faligo, c'est de mettre en lumière... des personnages du passé qui ont réellement existé, mais qui sont tombés dans l'oubli.
Anne Golon, votre Angélique, c'est un personnage totalement contemporain, finalement, même si c'est une héroïne de roman historique.
Mais c'est un personnage que j'ai composé, et j'avais déjà écrit pas mal de romans plus courts, les uns pour les jeunes, etc. Puis là, évidemment, c'était une tentation. J'ai été plutôt inspirée par Autant d'emporte-vent, parce que j'ai été surprise de voir comment un décor historique, au fond, simple, produit du romanesque. Donc, un livre, c'est malgré tout, puisqu'on faisait autrefois des romans, c'est une chose, c'est une histoire romanesque, et puis, dans un cadre historique, elle prend une assise beaucoup plus vivante, parce que c'est, au fond, c'est le rôle de chaque période. Le XVIIe siècle m'inspirait parce qu'on en parlait peu et mal. Et puis alors Angélique, eh bien, c'est une femme, c'est ça qui m'a tout à coup tenté de dire un roman dont le héros principal serait une femme. Et puis voilà, ça c'est la question d'un métier comme nous en parlions avec Mathieu, justement. Qu'est-ce que c'est qu'un métier que composer, créer, en somme, la création? C'est très spécial, mais ça, quel métier? Comment s'appelle-t-il? On ne sait pas exactement, mais c'est justement là que ça prend sa force, quand il s'appuie sur l'histoire, c'est-à-dire sur une vie, c'est la vie. Beaucoup plus.
Mais cette jeune femme, elle est extrêmement moderne. C'est quelqu'un qui se joue des conventions, qui refuse finalement l'état des choses.
Oui, mais parce que de toute façon, moi, je suis une femme moderne. Je suis née à cette époque. Et ben, on ne peut pas s'empêcher quand on écrit, enfin moi en tant qu'auteur, je sais que malgré tout il y a une grande partie de ce qu'on pense, qui joue, mais c'est ça écrire, c'est ça composer. J'ai toujours été frappée de l'espèce d'ignorance dans laquelle, dans l'ensemble, des lecteurs qui sont quelquefois tout à fait ardents, ne conçoivent pas exactement ce que ça veut dire être l'auteur. Parce qu'en effet, c'est une chose un peu, c'est une chose un peu spéciale. Alors donc, il se trouve que cette conception de cette jeune femme, cette petite fille pour commencer, correspond à notre monde actuel. Mais c'est donc, c'est le roman historique me permet au moins de déguiser le côté personnel.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'encore une fois, et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve vraiment remarquable l'idée d'avoir republié finalement aujourd'hui Angélique, c'est que les demoiselles vont s'identifier au personnage.
Tout le monde est d'accord, ils se reconnaissent, ils se retrouvent. Bon, ça prouve qu'on est quand même assez liés à travers les années qui passent, on est quand même très liés avec le public, parce que ce qui est intéressant pour un auteur, c'est le public. C'est pour ça qu'on ne fait pas assez attention. Quand j'ai commencé à écrire à droite, à gauche, les gens qui éditaient disaient « Oh, vous savez, le public, il n'y a plus rien, il y a la télévision, etc. » C'était une espèce de mépris. Et c'était stupide, parce que il y a les lecteurs, et puis il y a un auteur, et puis il y a ses lecteurs. C'est ça qui est important.
Remarquez, vous écrivez quand même dans la préface qu'à une période, quand vous avez voulu reprendre un peu la série en roman, vous avez été accueilli bizarrement par un éditeur.
Je n'ai pas été accueilli par un éditeur. Personne ne...
Mais on ne vous a pas dit d'abord, je croyais que c'était un film.
Ah si, non, là c'était simplement par le syndicat des auteurs auquel je me suis adressé pour dire, écoutez, maintenant, je fais un procès. Bon, vous devez me défendre. Et cet homme, donc d'un âge... quand même, il avait une trentaine d'années, c'est là que j'ai dit, mais alors mon livre, je l'ai écrit, il est déjà disparu. Parce qu'il m'a dit, écoutez madame, je vous avoue, pour moi, Angélique, c'était un film. Je lui avais amené 14 gros livres, comme ça sur sa table. Je dis, ça c'est Angélique, parce qu'Angélique, c'est un livre. Et c'est ça l'histoire, c'est-à-dire la tragédie d'Angélique, livre. Mais bon, aujourd'hui, donc, elle repart sous les mêmes traits, sous les mêmes textes, avec un peu plus de des choses que j'ai pu remettre parce qu'elles avaient été coupées. Donc, et puis alors, de la part du public, un accueil absolument tout à fait moderne, tout à fait... Bon, ça prouve qu'elle était pour ce siècle. Voilà.
Gilles, je pense que ça te touche que tu viens d'entendre sur les personnages féminins parce que chez toi, il y en a beaucoup. Et là, en l'occurrence, il y en a deux en plus, vraiment importants, en tout cas principaux dans le récit. Et ben voilà, toi aussi, c'est des héroïnes modernes, c'est des héroïnes qui avancent, qui font fi des conventions et qui renversent tout un petit peu sur leur passage.
Parce qu'Internet, excusez-moi, je vous interromps, parce qu'Internet fait qu'on sait enfin ce que pense le public. Parce que je pense que tous les auteurs ont beaucoup souffert, souffrent encore de manque de communication avec le public qui n'existait pas, on envoyait des lettres. Mais si l'éditeur ne vous les envoyait pas, vous ignoriez la réaction du public. Maintenant, avec Internet, on sait. Il y a les sites, il y a des blogs.
Je peux vous faire une confidence ?
Comment ?
Je peux vous faire une confidence ?
Oui.
Quand j'ai dit que dans un des cafés littéraires, j'allais avoir Anne Gollon, mes parents, mes amis m'ont tous dit « Qui ça ?»
Oui.
Et puis j'ai dit « Mais c'est l'auteur d'Angélique. » Et là, tout le monde m'a dit « Ah, bah oui, forcément
voilà. !» Voilà. Oui. Mais convaincre qu'il y ait un auteur, ce qui est assez curieux, c'est que le complot, si on peut dire, pour effacer Angélique, essayer de faire croire que c'était composé par plusieurs personnes, comme par exemple les Rois Maudits, etc. On refusait un seul auteur. Mais le public, lui, ne demande pas mieux. Là, c'est une correspondance. Alors
Gilles, donc les héroïnes. Pourquoi d'abord des héroïnes, d'ailleurs, plus souvent que des héros ?
parce que je suis fait comme ça, parce que ce sont elles qui m'ont fait et qui me font encore. La femme est à l'origine de tout et à l'origine de, du mal. Hein. M-A, accent circonflexe, L-E. Et non pas du mal, ce que l'Église a tenté de nous faire croire depuis 20 siècles et qu'elle tente encore de nous faire croire aujourd'hui. Donc, elle est à l'origine de tout, et c'est la raison pour laquelle je suis incapable d'écrire des histoires d'hommes. Le dernier, celui que je suis en train de terminer actuellement, qui va paraître à la fin de cette année, je me suis dit, là, je raconte une histoire d'hommes. Dès le milieu du deuxième chapitre, j'étais parti dans une histoire de femme, une nouvelle fois.
Il y a une mutation bizarre.
J'étais parti avec un homme, et à la 30e page, j'étais de nouveau dans les jupons d'une femme. C'est comme ça, je n'y peux rien. Alors si, j'essaie de comprendre.
Tu t'es fait psychanalyser récemment,
Non, mais la psychanalyse, l'écriture est une psychanalyse. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais bon. Donc, j'essaie de comprendre, et ça me semble tout de même évident que c'est la femme qui est l'être le plus, en tout cas pour moi, fascinant à explorer, puisque c'est elle, un, qui donne la vie, deux, qui l'entretient, trois, c'est elle qui transmet l'essentiel. Elle transmet l'essentiel. Ne serait-ce que, par exemple, l'éducation des enfants, qu'on le veuille ou non, c'est l'essentiel qui passe par la femme. Nous avons tous été marqués, nous le sommes encore tous, par la présence de ce féminin transmetteur de l'essentiel. Donc voilà, je raconte l'histoire de femme, et puis ce sont elles qui... J'ai appris à lire lorsque j'ai reçu le prix de lecture au cours élémentaire première année. Je suis arrivé à l'écriture par l'amour de la lecture et de la langue et de sa musique. Et j'ai reçu comme livre le Don Quichotte de Cervantes en édition illustrée pour enfants. Je l'ai lu, je relis des dizaines de fois et je me suis dit qu'un jour j'aimerais raconter des histoires comme celle-là. Et je crois que je suis resté un combattant contre les moulins à vent. Je me bats contre les moulins à vent qui ont tendance à moudre les femmes en permanence dans toutes les époques de notre histoire, et notamment au 19e siècle, 18e, 19e siècle. Quand on se souvient qu'une femme n'avait pas le droit de publier, d'écrire au 19e siècle, qu'elle ne pouvait le faire que sous le nom de son mari, et que, Georges Sand l'a fait, mais pas sous le nom de son mari, parce qu'il s'était envoyé la soupière au visage, donc elle avait pris le nom de son amant. Elle l'avait un peu mutilé, pas l'amant, mais non, transformé. Donc, la femme est l'une des grandes victimes de toutes les grandes époques de notre histoire, et c'est aussi une raison pour laquelle je fais en sorte qu'elle soit l'héroïne de mes romans, et elle en est au cœur.
Avec aussi quand même des héroïnes qui sont d'extraction modeste.
Oui, bon, là, continuons dans la psychanalyse, je suis moi-même d'extraction modeste, mes parents étaient des ouvriers de filature, là, ici, à Vallée de la Moselle. Et je suis imprégné de cette culture ouvrière. Je ne peux pas m'en détacher. Je ne veux pas m'en détacher. Je suis fier d'être issu de ce milieu-là, ouvrier. Et oui, la plupart de mes héroïnes sont aussi enracinées dans ce milieu-là. Et elles l'assument bien. Et puis, elles s'extraient de leurs conditions par leur courage, par leur volonté, par leur ténacité, par toutes les qualités qui font qu'une femme est une femme.
Avec une vie rude. Mais finalement, on a l'impression qu'elles sont, enfin, qu'ils sont, parce que les personnages masculins aussi, qui sont quand même heureux.
Oui, bien sûr.
Il y a des problèmes, mais...
Il y a des problèmes, mais il n'empêche que c'est pas parce que la vie est rude que pour autant on n'est pas heureux de la vivre, cette vie. Elles en sont heureuses, elles surmontent les difficultés avec beaucoup de courage et de volonté, beaucoup plus souvent que les hommes dans la même situation. Elles sont heureuses. Et elles font partager leur bonheur à ceux qui l'entourent, et notamment les hommes qui sont dans leur géant.
On va terminer avec Roger Faligo.
Étant donné la façon intéressante dont vous parlez de cette mise en place des femmes dans l'écriture, que justement, c'est précisément, et je le dis maintenant, que je ne voulais pas que mon héroïne soit une personne qui monstrait. Parce que c'est ça, le combat actuel. Parce que d'abord, c'était absolument impossible. Aujourd'hui, peut-être, mais de ce temps-là, encore. Donc, c'était pas la peine que je place une héroïne. Les moulins avant, il y en avait même que trop. Il n'était pas question. Elle ne pouvait s'en sortir que si elle était de de naissance noble, avec tous les droits que ça pouvait lui donner, etc. C'est pour ça que je pose aussi la vision historique. Il fallait prendre le temps comme il était. Donc Angélique n'est pas une héroïne de courage, parce qu'elle a une enfance pauvre, parce qu'il y avait les hobereaux, qui étaient des pauvres gens, mais c'est ça, son rang qui lui a permis de se sortir de tout ce qui a lui arrivé. Vous voyez, c'est ça l'histoire.
Roger, je voulais qu'on finisse parce que je voulais savoir si vous n'aviez pas été journaliste, est-ce que vous pensez que vous auriez réussi à écrire ce livre ?
Oui, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire des documentaires, de l'investigation pour des bouquins. J'ai fait des bouquins sur les services secrets, j'ai fait des bouquins sur la résistance. Mais je me suis trouvé confronté à ce problème, c'est qu'on m'a dit, est-ce que c'est pas intéressant de faire de l'investigation, c'est-à-dire au lieu de faire un truc sur les coulisses du pouvoir comme je fais l'histoire de la 5e République, les secrets de la 5e République, ou la piscine, l'histoire des services secrets français, c'est d'utiliser les mêmes techniques d'investigation que j'utilise pour le 20e siècle, le début du 21e, au 16e siècle. Alors évidemment, j'ai moins de témoins, ça c'est sûr. voilà. Mais je me suis aperçu, et c'est ça qui était formidable, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi la mondialisation, je me suis aperçu que dans les archives de françaises, bretonnes, de l'Empire espagnol, etc., finalement, il y avait énormément de choses. C'était un jeu de piste, évidemment, de retrouver ce personnage. À un moment, j'étais à Potosi, donc dans les montagnes d'argent, et je trouve... que là, il y a des lettres qui montrent qu'il a changé de nom, il change souvent de nom parce qu'il est poursuivi, et qu'il est poursuivi par les services de l'acquisition, et il doit prendre un bateau et partir au large, il va traverser le Pacifique. Bon, ben ça, si vous voulez, c'était dans le cadre, comme j'aurais pu faire, comme quand j'ai travaillé sur les services secrets français, tout d'un coup, j'ai trouvé des archives après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça, c'était pareil. La grande difficulté, naturellement, et ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit tous sur cette table, c'était aussi de dire, il faut trouver... Parce que je pense être assez proche de la réalité de mon personnage, mais il fallait absolument vivre tout ce qu'on pouvait vivre au XVIe siècle, c'est-à-dire connaître la nourriture chez les Mongols, connaître la musique chez le chat de Perse Abbas Ier, connaître la façon dont on creusait les galeries avec des Incas, encore une fois les esclaves Incas, au Pérou, etc. Et ça, c'est passionnant, mais évidemment, là, j'étais sur un domaine mondialisé, puisque c'était le tour du monde, quoi. Et à la fin, il revient en Bretagne, il s'aperçoit que oui, là, le monde est rond comme une citrouille.
Bon, en tout cas, voilà, on va vous remercier d'être resté et de nous avoir écouté pendant cette conférence autour du roman historique. Moi, je voulais juste finir parce que Gilles a commencé en lisant le Becherel. Moi, pour préparer ça, j'avais lu Umberto Eco. Bon, je vais être obligé de lire le Becherel après pour tout comprendre. Mais Umberto Eco a sorti il y a quelques années un roman qui s'appelle Baudolino et qui est exactement sur le thème qu'on a évoqué là, puisque c'est un roman historique qui se passe au XIIIe siècle, si je me souviens bien, avec un personnage qui part en voyage lui aussi, qui va dans les mondes et les contrées inconnues, qui en revient, qui raconte son voyage et son périple, et évidemment, c'est une imposture totale, il n'a jamais été aussi loin, il a totalement inventé tout ce qu'il raconte, nous sommes témoins et nous le savons, parce qu'on voit que ce qu'il raconte ne tient pas un instant la route, mais en attendant, à son époque, on l'a cru et on en a fait un héros. Et c'est une métaphore de l'écrivain. Et Umberto Eco explique simplement que le romancier, c'est d'abord un menteur. Écoutez, si un jour on a la chance d'avoir une...